16h18, deuxième partie de notre émission. Sur un plateau, des rumeurs, des on-dit, des glissements de logique pris au pied de la lettre, des théories du complot farfelues qui virent croyances collectives. Dans notre étude élargie de toute forme de récit et de narration, il nous a semblé pertinent d'interroger les histoires qui sont nées des cendres des attentats du 11 septembre. Ces histoires qui ont fait le tour du monde, merci Internet, et qui font renaître de vieilles hallucinations diaboliques et toutes sortes de paranoïa à l'égard d'un complot mondial. Plus largement, il s'agit d'interroger la façon dont elle se fabrique et ce sur quoi elle s'appuie. Si les représentations collectives et l'opinion publique sont, selon Durkheim, l'un des objets fondamentaux sur lesquels doit se concentrer la recherche sociologique, c'est aussi le sujet du livre « Vie et mort des croyances collectives » paru aux éditions Hermann il y a 5 ans. Un livre qui analyse parfaitement les processus d'émergence et se propose d'être une première étape dans l'approche empirique et expérimentale de la question. Gérald Bronner, vous êtes maître de conférence à Paris 4 à la Sorbonne, vous êtes l'auteur de ce livre et vous êtes notre invité cet après-midi. Bonjour.
Bonjour, mais je suis professeur à Strasbourg maintenant depuis quelques années, je suis désolé.
Vous avez muté. Bon. Alors, pour première question, est-ce que c'est un terrain facile que de travailler sur les croyances collectives ?
Pas du tout, parce que les croyances, par définition, ont un aspect relativement intangible, difficile à saisir. On n'observe pas une croyance comme on observe un comportement ou comme on observe une catégorie socio-professionnelle sur laquelle on peut faire des statistiques et des calculs. Donc c'est un objet assez difficile à saisir, d'autant plus difficile à saisir si l'on essaye de s'intéresser à l'émergence de la croyance. Parce que généralement, vous ne voyez la croyance qu'une fois qu'elle est constituée, lorsqu'elle se raconte de bouche à oreille, mais du coup, lorsque vous en entendez parler, le processus de constitution de cette croyance, eh bien, c'est déjà évaporé. Et moi, précisément, dans le livre que vous avez eu la gentillesse de mentionner, j'ai tenté de percer un peu du mystère de l'émergence de ces croyances.
Comment est-ce qu'on remonte le fil ?
Ben, on ne le remonte pas, justement, mais j'ai utilisé un certain nombre de techniques expérimentales pour simuler, en quelque sorte, l'émergence d'une croyance, par exemple, en confrontant des individus à des situations énigmatiques qui étaient vraiment survenues dans la vie sociale et qui avaient donné lieu à des croyances collectives. Par exemple, le mythe de la disparition des morts dans le 13e arrondissement de Paris, etc., etc. Et là, en utilisant des outils statistiques que je ne vais pas détailler pour vos auditeurs, nous pouvons avoir une simulation de la façon dont certains, ce que j'appelle les objets cognitifs, émergent sur le marché des idées et des croyances.
Du coup, vous les remettez face à une situation qui a donné lieu à la croyance et vous faites en sorte qu'elle réémerge.
Oui, alors en testant plusieurs facteurs, par exemple le facteur de mémorisation. Certains récits sont mieux mémorisés que d'autres, donc ils vont avoir une force de pénétration, si vous voulez, plus importante dans l'espace social. D'autres vont être plus crus que d'autres, c'est le critère de crédibilité. Et il y a encore aussi...
Cru dans le sens, d'accord,
okay, crédible. Dans le sens, non pas cuit ou cru, mais dans le sens de la crédulité. Et d'autres, par exemple, pour parler d'un autre facteur, il y en a beaucoup d'autres vont avoir un critère d'évocation. C'est-à-dire qu'on va, dans une situation particulière, on va penser spontanément à un scénario, ce qui ne veut pas dire qu'on va l'endosser.
Quand on demande à des Égyptiens de parler du 11 septembre, c'est souvent le même refrain que l'on entend, y compris chez les intellectuels. Sobri Hafiz est critique littéraire et professeur d'université. Beaucoup de monde ne croit pas que Ben Laden ait pu faire ça. Et vous savez, il y a un livre français qui pose des questions. Est-ce Ben Laden qui a fait ça ou pas ? Vous savez, le fameux livre écrit par le français Thierry Messant. Moi-même, j'ai des doutes, pas sur le fait que les attentats ont eu lieu, c'est sûr, ils ont vraiment eu lieu. Mais qui en est à l'origine ? Et surtout, qui en a profité ? Les Arabes, les musulmans ou alors les Américains ? Ces théories du complot ont deux variantes. Il y a ceux qui disent que l'administration américaine savait et a laissé faire les attentats pour pouvoir envahir plus facilement l'Afghanistan et l'Irak. Et ceux qui vont encore plus loin, ceux pour qui ce sont les Américains qui ont planifié les attentats. Nabil Choubachi est rédacteur en chef à la télévision égyptienne Nil TV.
L'esprit de complot est assez présent en général en Égypte, pour un peu tout, quoi. On a toujours été assez naïf, on va dire. C'est peut-être une tradition, c'est vrai, par exemple, je sais pas, l'histoire du requin, par exemple, dans la mer Rouge, qui a tué quelques touristes il y a quelques mois. Il y a des journalistes, pourtant des grands noms du journalisme, qui ont dit, voilà, ça doit être les Israéliens qui ont fait ça. On a ancré en nous cette théorie du complot. Alors, des fois, il s'avère que c'est vrai, mais des fois, c'est faux.
10 ans après les attentats, ces théories du complot se portent plutôt bien. Et elles peuvent compter sur une caisse de résonance, Internet.
Voilà un extrait du journal de ce matin même, un reportage d'Antoine Maret diffusé sur France Culture vers 9h. Bon, les croyances sont nombreuses, on l'entend, Gérald Brunner. Vous faites le détail dans ce livre des histoires qui ont émergé des cendres du 11 septembre. 11 septembre dont on remarquera au passage que c'est presque devenu un nom propre qui veut dire à la fois la date, qui veut dire les attentats, qui veut dire les conséquences. Quelles sont ces histoires ?
Il y en a de nombreuses. La plus connue, c'est celle qui vient d'être mentionnée, évidemment, toute la mythologie du complot qui considère que ces attentats n'ont pas été fomentés par Al-Qaïda, comme l'affirme la version officielle, mais au contraire par la CIA, éventuellement par Israël, ou la CIA main dans la main avec le Mossad. Ça, c'est une un des mythes les plus importants qui a émergé du 11 septembre. D'ailleurs, vous avez mentionné un reportage en Égypte. L'Égypte est en effet un des pays où le mythe complotiste ou conspirationniste est le plus en vogue. Seulement 16%.
Il disait beaucoup de monde, ça s'élève à combien à peu près ?
Mais il y a eu divers sondages, mais selon un sondage assez récent, 16% des Égyptiens seulement croient en la version officielle, ce qui veut dire que tout le reste en doute, et il y a 55% qui déclarent croire en la théorie du complot, et parmi eux, on a 12% qui pensent que ce sont les États-Unis qui sont à l'œuvre, et 43% qui pensent que c'est Israël. Donc vous voyez, c'est tout à fait considérable, et ce sont des chiffres très importants en Égypte, qu'on retrouve dans beaucoup de pays arabes. On le comprend, il y a une antipathie américaine qui explique cela, mais l'antipathie américaine n'explique pas tout. Car dans d'autres pays où il n'y a pas forcément d'antipathie états-unienne, vous retrouvez des chiffres tout à fait inquiétants, et même aux États-Unis.
Par exemple, alors en Europe, si on est carrément en France ou en Allemagne ?
En France, il y a 63% des gens qui acceptent la version officielle, ce qui peut sembler déjà pas mal par rapport à l'Égypte, mais ce qui veut dire que le reste soit près de 38% en doute. Et parmi eux, il y a tout de même 15% qui se déclarent persuadés que ce sont les États-Unis et Israël qui étaient à la manœuvre. Un pays voisin des États-Unis, comme le Mexique aussi, voit des pics de croyances conspirationnistes très importantes. Et je le disais aussi, les États-Unis eux-mêmes, donc ils ne peuvent pas être suspects d'avoir d'antipathie américaine, eh bien parmi les Américains, on en trouve 36% hein, qui déclarent qu'il est possible, voire très probable, qu'il y ait des officiers fédéraux américains qui soient impliqués d'une façon ou d'une autre dans ces attentats, ce qui prouve la grande popularité de ce mythe. Mais ce n'est pas le seul, en effet.
Outre la théorie du complot, quelles sont ces histoires qui ont émergé des cendres des attentats du 11 septembre ?
Il y en a des très nombreuses, très curieuses, dont la plupart ont été oubliées d'ailleurs. C'est pour ça que on dirait que le mythe du complot a remporté tout le morceau en quelque sorte. Mais n'empêche que certaines se sont diffusées et ont connu un certain succès au moment de leur émergence. Par exemple, le mythe des orphelins du 11 septembre. À la suite de ces attentats, certaines bonnes âmes se sont inquiétées de ce que peut-être il y aurait des enfants dont les parents seraient morts dans les Twin Towers, qui erraient par exemple dans le New Jersey, qui allaient mourir de faim puisque personne ne se préoccuperait d'eux. Toute l'administration, évidemment, centrée sur les victimes directes. Il y aurait donc des dommages collatéraux, des victimes indirectes. On a commencé à chercher à chiffrer combien y aurait-il d'orphelins des Twin Towers. On a récolté des millions de dollars. On a récolté.
Vous voulez dire qu'il y a eu des appels à
dons ? Absolument. Il y a eu une fondation des orphelins du 11 septembre qui a récolté des millions de dollars. Il y a eu des propositions venant de partout dans le monde d'adoption de ces orphelins. Et tout cela a été publié dans des journaux très sérieux, dans le Times. Et ça a été porté aussi par, disons, des médiateurs de la croyance, en quelque sorte, qui avaient une certaine respectabilité, comme Hillary Clinton, pour n'en citer qu'une parmi tant d'autres. Et ceci tenait un raisonnement qui nous semble complètement absurde a posteriori, mais qui a apparemment convaincu d'une certaine façon. Il disait, en moyenne, les gens ont deux enfants. Donc, s'il y a environ, par exemple, 3000 ou 4000 morts dans les Twin Towers, cela veut dire qu'il y a peut-être 8000, 9000, on est allé jusqu'à 15000 orphelins qui errent peut-être à Manhattan ou dans le New Jersey ou ailleurs. Et il faut évidemment urgemment s'occuper d'eux. La vérité, c'est qu'il n'y eut pas d'orphelins du 11 septembre, tout simplement parce que ce raisonnement que je viens d'énoncer, oubliez cette banalité, tout simplement pour que ces enfants aient le malheur d'être tout à fait orphelins et totalement errants dans la rue, il fallait que les deux parents soient morts et non pas un seul, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. Donc ces millions de données étaient tout à fait dispersées dans la nature. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, ces millions de dollars.
Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je ne sais pas non plus quelle croyance collective expliquera le fait que la lumière du studio vient juste de s'éteindre et que nous parlons dans le noir. Mystère, mystère.
Bon, j'espère qu'on nous entend quand même et j'espère que je n'y suis pour rien.
Une autre histoire qui est née du 11 septembre, il y a cette théorie du complot qui est massivement répandue, cette théorie des orphelins. Il y a aussi tout ce qui concerne les 4000 personnes qui auraient été mystérieusement invitées à ne pas venir travailler ce jour-là.
Ah oui, c'est même beaucoup plus précis que ça. Il s'agit de 4000 juifs, affirme la rumeur. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est même le début en fait, de l'émergence du mythe du complot. Très vite, en fait, dans quelques feuilles de choux états-uniennes, parues au Nouveau-Mexique, notoirement antisémites, on évoque l'hypothèse des 4000 juifs qui ne seraient pas venus travailler au World Trade Center. Et vous comprenez tout de suite ce que cela implique. S'ils ne sont pas venus travailler, c'est qu'ils avaient une information. Qui aurait pu leur donner cette information, si ce n'est le Mossad? Et comment le Mossad aurait-il été au courant si la CIA elle-même ne l'avait pas été? Donc voilà, ça c'est le début, en fait. C'est le début du mythe. Je tiens à dire, évidemment, c'est évident, mais il faut le repréciser à chaque fois que c'est un mythe total. C'est 4000 juifs n'ont jamais existé, hélas, parce qu'il y aurait au moins 4000 personnes sauvées. Pas du tout, évidemment, cette information est parfaitement fausse. Et quand on remonte la file de cette information, d'où tenaient ces journaux antisémites que je viens d'évoquer, d'où tenaient-ils leurs sources? Ils citent un journal jordanien qui lui-même cite une source arabe inconnue. Donc vous voyez combien ça tient, ça tient sur du vent. Mais peu importe, comme on dit, diffamé, il en restera toujours quelque chose. Et en effet, on retrouve encore cet argument régulièrement sur les nombreux sites qui sont intéressés par la question.
Toutes ces histoires tiennent vraiment sur l'irrationalité. Je me suis demandé si la réponse apportée par les États-Unis tout de suite après les attentats du 11 septembre via la voix du président George W. Bush, évoquant tout de suite l'axe du mal, évoquant la réponse religieuse que les États-Unis pouvaient apporter à cette violence en disant on va répondre, on va rétablir la volonté divine. Est-ce que cette réponse médiatique et politique n'a pas orienté l'opinion publique tout de suite vers de l'irrationalité ?
Alors, je dirais qu'en tout cas, il ne faut pas s'en étonner. Vous savez que les États-Unis ont longtemps constitué et constituent encore la notable exception à la thèse de la sécularisation. Qu'est-ce que c'est que cette thèse ? C'est la thèse qui affirme que plus un pays est industrialisé, moins l'institution religieuse est forte. C'est tout à fait faux pour les États-Unis. C'est un pays qui est encore très croyant. Et justement, on l'a découvert.
Comment ça s'explique ? On a des explications à ce propos ?
Oui, ce serait un peu long. Mais une des explications principales, c'est qu'il n'y a pas eu de lutte aux États-Unis à cause de la dispersion des églises protestantes entre l'État et l'Église. Donc, il n'y a pas eu de rivalité. Donc, on a laissé aux églises tout un pan de l'activité sociale, etc., ce qui fait que les églises ont encore une très grande crédibilité aux États-Unis en raison des services qu'elles rendent, tout simplement, à la communauté. Mais c'est une affaire très longue. Donc, effectivement, George Bush a stupéfait l'Europe, mais certainement pas aux États-Unis, et n'a pas stupéfait ceux qui savent que les États-Unis demeurent un pays profondément religieux. Mais j'ai envie de vous dire que toute cette affaire qu'on pourrait croire justement irrationnelle ne m'apparaît pas si irrationnelle que ça. Et c'est précisément le caractère extrêmement pernicieux de ces théories du complot. C'est qu'elles se fondent moins sur l'irrationalité partagée qu'au contraire une forme de rationalité subjective. Elles sont notamment fondées sur des arguments, sur un ensemble très grand d'arguments qui peuvent paraître crédibles si on n'oppose pas ces arguments à un contre-argumentaire. Et le problème de ces arguments, c'est qu'ils sont souvent techniques, ils réclament à la fois une connaissance de physique des matériaux, de sismologie, que sais-je, d'ingénierie des boursières, etc., etc. Donc il est très difficile de constituer un argumentaire contre. Et on comprend très bien que des gens pourtant assez bien équilibrés puissent être séduits par ces argumentaires.
Oui, bonsoir.
Bonsoir,
oui,
monsieur.
Téléphone de Haute-Azac dans le Rhône.
Oui.
Il y a eu deux cas de piqûres de vipères, un mortel et l'autre pas. Ça, c'est des faits, hein. À cela s'est greffée une rumeur, comme quoi ces vipères auraient été lâchées par hélicoptère, même par voiture, et par des écologistes. Ces vipères seraient africaines et il n'y aurait pas de contrepoison en France. Des gens ont même connu des autres personnes qui ont vu des caisses cassées avec des vipères. Avez-vous eu vent de cela ? Qu'en est-il réellement ?
Personnellement, je n'ai pas eu vent de l'affaire. On retourne en 1987 sur l'antenne de France Inter. Le téléphone sonne, appel à témoignage sur la rumeur. Vous le dites vous-même dans ce livre, les mythes du complot et toutes ces croyances collectives sont les serpents de mer de l'imaginaire humain. Est-ce qu'ils rendent service en fait à notre esprit ? Est-ce qu'ils nous soulagent d'une certaine façon ?
Disons oui, certainement. D'abord, nous sommes des êtres cognitifs, c'est-à-dire que notre façon de nous déplacer, d'être vivant dans le monde, c'est de négocier intellectuellement avec lui, en quelque sorte. Donc nous avons besoin de sens. Par conséquent, dès lors que nous sommes confrontés à une situation de type énigmatique ou que nous entendons parler d'une situation qui paraît énigmatique, nous cherchons à remplir en quelque sorte ce vide de sens. C'est sûr. Alors là, j'évoquais effectivement la notion de serpent de mer de l'imaginaire humain, donc ça fait écho en quelque sorte à cette histoire de vipère. Ça, c'est intéressant. Cette histoire, elle est très connue. C'est une rumeur très, très répandue. Et dans ces croyances, il y a toujours deux dimensions, pour parler très simplement. Il y a justement la notion de serpent de mer, c'est-à-dire des invariants des invariants sociaux et mentaux qu'on retrouve à travers le temps, y compris la légende de l'autostoppeur fantôme, par exemple, vous en trouvez des versions au Moyen-Âge, donc c'est tout à fait fascinant. La Dame Blanche, par exemple, oui. Et cette histoire de vipère ou d'animal caché et dangereux, c'est en quelque sorte aussi une figure proche de la mygale dans le Yucca, du serpent minute dans le supermarché, etc. On trouve plein de versions, donc il y a des invariants. Mais ce qui est très drôle, c'est que les croyances, donc ces invariants s'hybrident, se marient avec des variables sociales. C'est-à-dire que, en quelque sorte, pour être plus efficace, on dirait qu'elles se conjuguent avec un contexte social particulier. De même que le mythe du complot se réincarne sans cesse en fonction du contexte qui est le sien.
Pourquoi est-ce que les moments de catastrophe naturelle ou de catastrophe politique, on pourrait parler comme ça des attentats du 11 septembre, sont des moments propices à l'émergence de ce genre de croyances ?
Toutes les catastrophes ont toujours généré beaucoup de croyances. Sauf que quand vous êtes dans un monde où la parole officielle est majoritairement une parole religieuse, l'interprétation à donner à ces faits, elle devient simple. Soit c'est une punition divine.
Soit c'est une volonté. Quoi.
Soit c'est le diable qui, ponctuellement, a gagné sur Dieu. Et comme vous le savez sans doute, le tremblement de terre de Lisbonne a constitué aussi un tremblement de terre métaphysique, a-t-on dit. Pourquoi ? Parce que une question assez légitime est de savoir, mais si Dieu existe, pourquoi a-t-il laissé faire cela ? Puisqu'il y avait des innocents dans ce tremblement de terre. Donc toute grande catastrophe interroge le sens fondamental, mais de l'homme, de notre place dans l'univers, etc. De la punition, du bien et du mal. Mais lorsque vous vivez dans un monde globalement sécularisé et que la réponse par Dieu ou par le diable n'est plus crédible pour l'opinion publique, il faut redéfinir les catégories du bien et du mal. Et c'est vrai que le mythe du complot constitue une proposition assez attractive pour redonner du sens à une catastrophe qui, la plupart du temps, quand elle est naturelle, hélas, n'en a aucun.
Vous avez évoqué la figure du diable sur certaines photographies, dans des commentaires, sur des blogs, sites internet, on voit apparaître la figure du diable dans les flammes qui émanent de la tour du 11 septembre. Est-ce que c'est une figure qui est récurrente dans ce genre de croyances ?
Absolument, mais je dirais que ce n'est pas la plus fréquente. Généralement, ce qu'on voit le plus souvent, c'est Jésus ou la Vierge Marie. Mais on comprend qu'il eût été difficile d'admettre que Jésus ou la Vierge Marie apparaissent dans les cendres du 11 septembre, sauf à supposer que c'était une punition divine. Par exemple, lorsque le grand tsunami qui a fait des centaines de milliers de morts en Asie s'est retiré, certains ont cru voir le nom d'Allah dans l'écume, dans l'écume des vagues de ce tsunami. Donc effectivement, certains ont vu une figure diabolique. D'ailleurs, effectivement, on la reconnaît assez bien. Enfin, si vous êtes croyant, vous pensez que c'est une figure diabolique. Si vous aimez les super-héros comme moi, vous avez l'impression que c'est le Green Goblin de Spider-Man, par exemple, le bouffon vert. On y voit, c'est une auberge espagnole. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? C'est ce qu'on appelle le phénomène de la pareidolie. Qu'est-ce que c'est qu'une pareidolie ? C'est le fait de voir une forme dans de l'informe. Quand vous jouez, par exemple, à voir un cheval ou un dragon
dans les nuages ou dans les étoiles.
C'est un exercice que nous pratiquons tous. Sauf que nous savons bien que c'est pour rire. Mais dans certaines circonstances, nous suspendons en quelque sorte notre humour et nous prenons ces images au sérieux. Et nous nous disons, il est impossible qu'en fait, seulement le hasard ait produit une forme aussi proche du visage humain. Et ce raisonnement n'est pas totalement stupide, puisqu'en effet, la probabilité est faible. Si vous avez une chance sur 10 000, par exemple, qu'un tas de sable crée une figure, vous vous direz quand même, il est plus raisonnable de croire que ce n'est pas une coïncidence. Sauf que vous oubliez une chose, c'est le nombre d'occurrences duquel vient ce phénomène. Si, par exemple, vous avez 10 000 tas de sable, il est normal qu'au moins l'un d'entre eux présente une figure. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour les volutes de fumée du 11 septembre. Il y a eu tellement de photos, de films qui ont été pris de ces événements, et on le comprend, tous ces touristes, ces journalistes, etc. Et si vous prenez un film image par image, il eût été très étonnant que l'une de ces images, au moins, ne présente pas une figure diabolique si vous cherchez la figure du diable, le nom d'Allah, si vous cherchez le nom d'Allah, Bouddha ou ce que vous voulez. Donc, la figure du diable n'est pas la plus récurrente. En France, nous avons une figure à Cirque-les-Bains, par exemple, du Christ. Nous avons régulièrement des apparitions mariales. Et même, pour finir sur ce point, sachez qu'un toast a été vendu sur eBay parce qu'il présentait la figure de la Vierge Marie, 24 000 $. Donc, ça peut vous rendre riche, cette histoire de pareidolie.
Vous dites qu'on suspend un instant notre sens de l'humour, mais je me demande dans quelle mesure est-ce que ça ne relève pas non plus du jeu ? Est-ce que l'on ne s'amuse pas à croire ?
Bien sûr, il y a une dimension très importante dans le croire qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le rapport que j'ai par rapport à la croyance. Une croyance, c'est un objet, mais c'est aussi le rapport que j'ai. Lorsque je dis « demain, il va faire beau », je peux vouloir dire « je crois fermement, je mettrai ma tête à couper qu'il va faire beau » ou « je crois à 50% de chance qu'il va faire beau ». Donc, nous n'avons pas forcément un rapport inconditionnel à la croyance. Ce qui définit une partie de la radicalité mentale, justement, quand elle devient dangereuse, c'est lorsque nous adhérons inconditionnellement à un énoncé. Mais la plupart d'entre nous, on croit tous à des choses un peu absurdes, mais on n'y croit que très raisonnablement.
Est-ce que cette relativité est absente des sondages que vous évoquiez en début d'émission ? C'est-à-dire, est-ce que c'est compliqué de faire valoir, de mettre en relief la relativité que les individus mettent sur cette croyance ?
Ah bah vous pointez là un défaut méthodologique majeur des sondages, évidemment.
Parce que quand je vais répondre à votre sondage, je vais dire oui, en effet, j'y crois ou je n'y crois pas, mais je n'introduis pas la nuance que l'on vient de...
Bon, alors la plupart des sondages prévoient tout de même, et c'est le cas, je ne suis pas rentré dans les détails, prévoient des gradations, j'y crois un peu, beaucoup, ce qu'on appelle les sondages, les réponses marguerites, hein, j'y crois beaucoup, un peu passionnément la folie. Donc oui, il y a une intégration, si vous voulez, assez, grossière de la subtilité de l'approche de la croyance, parce que cette subtilité, elle est aussi liée au moment. À certains moments, je vais avoir une adhésion plus ou moins inconditionnelle. Encore une fois, un invariant qui se conjugue avec une variable. Ça va dépendre du contexte social.
Gérald Brunner, j'ai envie de vous renvoyer la question. Est-ce que n'importe qui peut faire naître une rumeur ?
N'importe qui, bien sûr, peut faire naître une rumeur, mais pas forcément volontairement. C'est-à-dire que la chose la plus dure, la plus difficile, c'est de créer de toutes pièces une croyance, de la diffuser, quoique sans doute certains s'y emploient. Mais
quels sont les bons ingrédients d'une diffusion, alors ?
Il y a plusieurs facteurs. D'une part, il y a d'abord celui qui va émettre la rumeur. Il faut qu'il soit crédible. Si c'est une rumeur qui se diffuse par l'interlocution, c'est-à-dire par le bouche à oreille, il est évident que le rapport affectif que nous allons avoir, que le crédit que vous me portez, que la compétence que vous me portez va être très importante.
Donc la qualité du médiateur, en réalité.
Absolument. Les caractéristiques du récepteur potentiel de la croyance. Si j'essaye de diffuser en vous une croyance, par exemple, disons, créationniste, et que vous êtes fermement darwinienne, il est très peu probable que j'arrive à vous convaincre, même si j'ai beaucoup de crédit auprès de vous. Et puis, il y a les critères internes de l'objet de croyance. Et là, j'ai pu déterminer dans mes travaux au moins trois critères qui semblent importants et qu'on a évoqués très rapidement tout à l'heure en introduction de votre émission. Le premier critère, c'est celui de l'évocation. Pour qu'une histoire se diffuse, il faut qu'elle rencontre une forme de spontanéité mentale. C'est-à-dire, quand on vous la raconte, vous aviez l'impression de le savoir déjà.
Et ça on dit « Ah oui, c'est vrai, voilà. Oui ».
Mais à l'intérieur de cela, il y a une proportion d'éléments intuitifs et contre-intuitifs. Il ne faut pas que tout soit intuitif. Il ne faut pas que tout soit contre-intuitif non plus. Si vous avez une proportion, je soulève le capot avec vous, si vous avez une proportion, dit-on, d'un tiers d'éléments contre-intuitifs et de deux tiers d'éléments intuitifs, vous avez une bonne salade qui peut prendre.
Qu'est-ce que vous appelez des éléments intuitifs ?
Mais par exemple, si je vous dis qu'un homme marche, ça c'est intuitif.
Globalement, ça va dans mon sens.
Ça veut dire que vous n'avez pas d'étonnement par rapport à cet énoncé. Un homme marche, il peut marcher. Si je vous dis qu'un homme vole, j'associe un élément volé, qui est intuitif, il y a des oiseaux qui volent, et un élément homme, qui est intuitif aussi, mais les deux ensemble, cela crée une proposition contre-intuitive. Normalement, un homme ne vole pas. Et donc, vous allez avoir tendance à mémoriser plus facilement, toute chose égale par ailleurs, dans un récit, un énoncé qui est contre-intuitif par rapport à un énoncé qui est intuitif. Mais il ne faut pas, encore une fois, qu'il y ait que des éléments intuitifs ou contre-intuitifs pour faire un bon produit. Le deuxième élément, c'est celui de la crédibilité, évidemment. Il y a des produits qui vont être plus crus que d'autres. Et évidemment, cette crédibilité va être fonction du récit, du rapport, encore une fois, que vous avez avec votre interlocuteur, et puis aussi d'un certain contexte social. Il y a des choses qui vont être plus crues, plus facilement crues, par exemple, en Égypte qu'aux États-Unis. Hein, on l'a vu, par exemple, pour le mythe complotiste ou en France. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est celui de la mémorisation. Vous aurez remarqué, par exemple, que les histoires drôles sont généralement courtes.
Pourquoi ? Et donc très faciles à retenir.
Et oui, ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours courtes. Au début, il y en a peut-être de longues, mais celles qui sont longues ne sont pas mémorisées, donc elles meurent sur le marché cognitif. Il en va de même pour les rumeurs. Il faut qu'elles aient un coefficient de pénétration du marché important. Et si elles ne sont pas facilement mémorisables parce qu'elles ne vous frappent pas, par exemple, parce qu'elles ne sont pas suffisamment intéressantes, vous vous abstiendrez de la répandre. Et donc la rumeur ne se diffusera pas.
L'un des témoignages faisait entendre la figure de Thierry Messiaen, qui a donc profité de ce moment-là pour publier un livre. Dans ce livre, il est beaucoup question d'arguments techniques, voire scientifiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé pour faire valoir une croyance ?
Évidemment, pour les raisons que je vous ai dites à l'instant, c'est-à-dire qu'un facteur très important, c'est la crédibilité et aussi le crédit de celui qui propose. Donc, une des grandes forces de ce mythe du complot, c'est qu'il est fondé, une de mes étudiantes a travaillé là-dessus, à faire une typologie des propositions concernant les mythes du complot du 11 septembre. Elle a dénombré presque une centaine d'arguments, qui sont tous extrêmement techniques. Alors, évidemment, ça pose une difficulté majeure. C'est qu'aucun individu, ni vous, ni moi, n'avons les compétences de défaire en même temps toutes voyez, tous ces arguments, parce qu'il faudrait être à la fois physicien, archéologue, je ne sais pas, spécialiste de la bourse, économiste, enfin toutes sortes de choses, connaître le trafic aérien. Mais en fait, ce que permet Internet, c'est pas seulement de diffuser massivement ces informations, c'est déjà un facteur très important, mais en outre, ce qu'il permet, c'est d'agréger ces informations. Avant, il vous fallait une vie pour écrire un bouquin qui soit crédible de cet ordre, par exemple Le Matin des Magiciens ou ce que vous voulez, oui, fallait une vie, ou en tout cas des années et des années. Aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez constituer un argumentaire d'une centaine d'arguments extrêmement techniques, vous faire passer pour un ingénieur des matériaux, avoir encore une fois des propositions qui vont totalement décontenancer votre interlocuteur qui, lui, ne va pas être prêt à investir autant de temps et d'énergie mentale dans cette question. Et comme les croyants sont plus motivés en général que les non-croyants, c'est toujours eux qui remportent le morceau.
Voilà, c'est par A plus B. CQFD. Alors, on a un petit peu parlé de la naissance, puis de la diffusion des croyances collectives. On va parler de leur devenir. Dans ce livre, vous comparez les croyances collectives à une sorte de petits organismes vivants, cellulaires, qui ont des évolutions pareilles aux organismes vivants que l'on peut trouver dans les théories, par exemple, darwinistes. Pourquoi avoir utilisé cette comparaison ?
Faut faire très attention, c'est vraiment une métaphore. Je ne crois pas que ce soit des êtres vivants. Je crois que c'est plutôt des produits, à la limite, si on peut les comparer métaphoriquement, c'est plutôt des produits sur un marché avec une offre, une demande, des interactions ultra complexes, encore une fois dans un contexte social. Alors, par contre, je revendique en effet la comparaison avec ce qu'on peut appeler le darwinisme ou le sélectionnisme. Mmh. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a beaucoup de théories des croyances collectives, pour la faire très rapidement, qui postulent que ces croyances naissent pour assumer une fonction sociale. Que ce soit la théorie des rumeurs, des représentations sociales, etc., il y a toujours cette idée sous-jacente, une forme de fonctionnalisme. Je ne crois pas du tout que ce soit comme ça que les choses naissent, et les croyances pas en tout cas. Ce serait assez mystérieux que tout à coup une croyance naisse par l'interlocution pour assumer dans quelques mois, dans quelques semaines, une fonction sociale. C'est ce qu'on appelle une forme de finalisme. Et ça fait penser au lamarckisme en biologie. Pourquoi les girafes auraient-elles un long cou, etc. Vous connaissez l'histoire. Et à l'opposition du lamarckisme, il y a une théorie sélectionniste darwinienne qui dit en fait la nature produit au hasard, de la même façon dans l'espace social, on va dire pas tout à fait au hasard, mais il y a plein de produits cognitifs qui sont en concurrence. Et puis ceux qui n'ont pas la force de survivre, parce qu'ils n'ont pas les critères que j'ai mentionnés tout à l'heure, eh bien ils disparaissent dans la concurrence. On voit toutes sortes de croyances qui disparaissent. Ne restent que les plus résistantes, qui donnent l'impression justement quand on travaille sur elles, qu'elles ont résisté parce qu'elles assumaient une fonction sociale. Mais ce n'est qu'une conséquence. Cette fonction sociale. Ce n'est pas la cause de leur émergence.
Très rapidement, qu'est-ce qu'il peut arriver à une croyance collective ? Il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités. Elle peut être confirmée, oui. Hybridée ou éliminée.
Bien sûr.
Et elle peut muter aussi.
Elle peut, tout à fait, elle peut se transformer. Hybridée, par exemple, prenez l'exemple des sectes qui mélangent, je ne sais pas, la secte raëlienne, qui mélange des morceaux de la Bible avec des théories pseudo-scientifiques. Ça, c'est une salade pour la rendre plus crédible, si vous voulez. Ils prétendent lire dans la Bible une forme de prémonition de ce que la science humaine va dire. Et pourquoi ? Parce que la Bible aurait été écrite ou suggérée par des extraterrestres qui eux-mêmes avaient une haute technologie.
Un exemple de mutation ?
C'est un produit hybridé. Une mutation, c'est cas typique des rumeurs, c'est on dit d'abord quelque chose, puis je vous le raconte, vous le déformez, puis vous le racontez à autrui, etc. etc. Et cela donne un produit tout à fait différent à la fin. L'élimination, quand une situation est énigmatique, par exemple, c'est l'exemple que je donne dans le livre, les crop circles, vous savez, ces grands cercles de blé qui sont faits par on ne sait qui, dans un certain nombre de cas, on peut penser que ce sont des artistes, mais certains pensent que ce sont des extraterrestres. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses, et un physicien a proposé l'hypothèse du plasma vortex, un phénomène physique réel, qui pourrait créer justement des cercles. Sauf que cette hypothèse ne tient plus à partir du moment où les crop circles deviennent très complexes, qui dessinent par exemple la figure de visage extraterrestre ou d'équations mathématiques. Donc cette hypothèse, tout simplement, elle est éliminée parce qu'elle est plus crédible.
Et pour les plus chanceuses et les plus solides, elles sont donc confirmées. Gérald Brunner, merci beaucoup d'avoir été avec nous toute cette émission. Je rappelle le titre de ce livre, Vie et mort des croyances collectives. Je rappelle le titre, c'est paru chez Hermann. Et je rappelle le titre d'un autre livre qui s'appelle L'inquiétant principe de précaution. Il est question de toute autre chose, j'imagine ?
Pas tant que ça. Il est question de précautionnisme et justement la volonté d'appliquer sans cesse le principe de précaution est adossée elle aussi souvent au mythe du complot.
Aux éditions PUF, merci beaucoup.